La musique qui soigne sur France Culture.
Culture Musique avec David Christoffel.
Au cours de cette semaine de Culture Musique, toute l'exploration des musiques qui nous veulent du bien, on a pu entendre des musiques qui aident à supporter un soin dentaire, des techniques musicales qui permettent de résoudre les problèmes d'élocution, quand ce n'est à remettre de l'ordre dans ses pulsions. Bref, la musique apaise, détend, aide à faire la part des choses, à structurer ses idées, à se concentrer, mais elle peut aussi booster. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les musiques qui peuvent permettre de mieux marcher. Et comme l'état de marche est tout un symbole, il en va d'abord de se trouver droit dans ses bottes. Dans son livre « Comment bâtir la confiance en soi », Didier Gélanor dresse une liste de musiques pour aider la confiance. On peut encore y trouver une référence à Mozart, mais aussi « Happy » de Pharrell Williams, « I Got a Feeling » des Black Eyed Peas, « I Believe in You » de Céline Dion. Ou même le formidablement stéréotypé Again and Again de Bastos. Bastos avec Again and Again, une musique susceptible de vous faire bouger la tête avec une légère concentration de la bouche, histoire de vous suggérer « oui, tout va bien, me v'là boosté ». Et si vous avez des doutes sur le bon goût musical de la chose, vous pouvez aussi avoir quelques certitudes sur le fait que la motivation a un prix et que le jeu peut toujours en valoir la chandelle. On n'a pas attendu les salles de sport pour inventer des musiques qui mobilisent littéralement des musiques faites exprès pour vous mettre en mouvement ou vous inspirer des plus dynamiques d'entre tous. Au XVIIe siècle, dans ses sonates représentatives, Bieber mimait la marche des mousquetaires. L'ensemble romanesca dans la marche des mousquetaires, des sonates représentatives de Bieber. Mais s'il y a, au XVIIe siècle, des musiques qui mettent en mouvement et qui portent de hautes ambitions curatives, ce sont bien les tarentelles. À l'époque, l'érudit Athanasius Kircher avait fait une typologie des tarentelles qui devait pouvoir se calquer sur une typologie des araignées. Cela ne voulait pas dire que chaque araignée avait une piqûre particulière dont on espérait venir à bout avec telle ou telle danse conçue exprès pour telle ou tel type d'araignée. À titre plutôt préventif, on cherchait en fait une danse qui plaise à l'araignée, et pour faire face à la grande variété des araignées, fallait-il donc une variété consistante de types de tarentelles. Mais quand la médecine s'est mêlée de la chose, il en est ressorti qu'il y avait peut-être encore plus de types d'avis sur la question que de types d'araignées. D'un côté, il y a ceux qui pensent que la morsure de la tarentule est venimeuse, qu'on ne peut en guérir que par la musique la plus adaptée pour ça, et que tout autre traitement est inutile, voire nuisible. possible. D'un autre côté, il y a ceux qui nient que la morsure est venimeuse, qui font des symptômes observés des histoires de maladies nerveuses et qui nient du même coup la force de la musique à les résorber. Mais il y en a encore d'autres qui reconnaissent que la musique est efficace contre la morsure de la tarentule, mais que n'importe quel air dont le rythme permet de danser doit pouvoir faire l'affaire. Il y a 150 ans, en 1866, Dr Joseph Nunez publie une étude médicale sur le venin de la tarentule où il est question d'une quatrième catégorie de médecins, ceux qui n'admettent aucune sorte d'influence de la part de la musique et qui ne reconnaissent d'efficacité qu'au saigner.
Quanna manzorig per la festa che gli ha fa, quanna manzorig per la festa che gli ha fa, l'utom de canic, io l'utom de canic, l'utom de canic, tutto li porci a me. Lizza il lizzo muccatore a quattro pizzi, il lizza il lizzo muccatore a quattro pizzi, muccatore arragamato, muccatore arragamato, muccatore arragamato, patita mia che non può. Ne Maria non te ne trippa magmen, ne noi ne non te ne trippa magmen. Se ta da maradai e se ta da maradai, se ta da maradai trippa me ne è da fa. E non ce vai a monte per lo fa che l'anchenata, e non ce vai a monte per lo fa che l'anchenata. Prima di tacche poi da ponte tutto lì io me ne stanno a mo'. Prima di tacche poi da ponte tutto lì io me ne stanno a mo'. Santo me che la mia è stata buona, santo me che la mia è stata buona, e quando venga zitta, e quando venga zitta, e quando venga zitta, l'anno che venga con l'umanità, e quando venga sola, l'anno che venga con la manita. Ne Maria, ne di chiari a cattè, corre il re di chiari a cattè, ne di chiari a capicchiate, di chiari a capicchiate, di chiari a capicchiate da che San Martata. Qui vuoi e lì tu lo sai ci tengo lì, qui vuoi e lì tu lo sai ci tengo lì, gli tengo una uccella, gli tengo una uccella, gli tengo una uccella, si lo dire quanto è, gli tengo una uccella, si lo dire quanto è.
La tarentelle de Sanicandro de Giovanni Girolamo Casberger avec l'arpeggiata dirigée par Christina Plouard, sachant qu'il existe encore une autre théorie qui explique que la sueur générée par le fait de danser permet d'évacuer le venin de la tarentule en vertu du fait simple et banal que le son des instruments de musique dissipe la somnolence dans laquelle peut jeter la piqûre de la tarentule. Dans les différents types de tarentelles, il y a les tamouriates qui se définissent en effet par l'usage d'un instrument spécifique, un grand tambour sur cadre chargé de cymbales qu'on appelle la tamora. Les montères maranaises se définissent plutôt par leur rythme à la fois très régulier et très rapide. Et puis il y a la tarentelle napolitaine qui se définit donc par sa région d'origine et qui inspire la danza à Rossini.
Mia si salterà, l'ora bella per danzare che in amor non mancherà.
La Danza dans Culture Musique sur France Culture, la tarentelle napolitaine de Rossini par la mezzo Cecilia Bartoli avec James Levine au piano. Mais alors que la tarentelle en fait un remède, la danse a pu devenir un symptôme au point qu'on parle de la danse de Saint-Guy comme d'une maladie en référence aux troubles éprouvés par les malades atteints de chorée au moment de la fête de la Saint-Guy, alors même qu'au 9e siècle, au moment du transfert des reliques de Saint-Guy de Saint-Denis en France vers la Saxe, il se produisit de tels miracles que s'est développé le culte de Saint-Guy comme protecteur des épileptiques et malades atteints de chorée. À titre de remède musicothérapeutique, le docteur tourangeau Armand Trousseau voulait soigner la danse de Saint-Guy avec un métronome. Édouard Jean-Baptiste Gélinot racontait qu'il faisait faire aux malades des mouvements rythmiques en les plaçant devant l'instrument appelé métronome, qu'il les forçait à mettre leurs mouvements en mesure avec les oscillations de ce balancier, et il croyait que dans cette méthode de traitement, une volonté étrangère puisse se substituer tué peu à peu à la volonté du malade, impuissant à coordonner les mouvements. Plus proche de nous, en 2013, Johan Wittwer et ses collègues de l'Université de Melbourne en Australie ont étudié des personnes saines âgées de plus de 65 ans qui devaient marcher soit avec un métronome, soit avec de la musique. Le rythme du métronome et celui de la musique étaient ajustés à celui de la marche de chaque individu. Au son de la musique, les sujets marchaient plus vite qu'à leur vitesse naturelle et faisaient de plus grands pas, ce qui n'était pas le cas avec un métronome. Depuis cette découverte, le centre Euromov à Montpellier étudie comment utiliser la musique pour améliorer la motricité des personnes âgées. Cela dit, il y a 2 siècles, dans ses essais sur la musique, le compositeur Grétry avait bien remarqué que le rythme opère plus puissamment que la mélodie et l'harmonie. Grétry s'en servait même concrètement quand il se promenait avec des gens dont il ressentait le pas trop lent ou trop rapide. À défaut d'oser leur dire, il chantait en sourdine un air en forme de marche en se mettant sur le tempo de son compagnon de marche pour ensuite varier l'allure en l'accélérant ou en ralentissant pour lui suggérer de changer de vitesse. En quelque sorte, Grétry était l'inventeur de la programmation neurolinguistique par le son.
Thank you.
Claudio Chimone à la tête de l'orchestre de l'Opéra Royal de Wallonie dans l'ouverture de Guillaume Tell d'André Ernest Modeste Grétry. Grétry qui avait un rapport assez scientifique à la musique pour avoir imaginé pouvoir télécommander les animaux par la musique puisqu'il avait poussé le détail de ses observations jusqu'à constater qu'au son grave et lent, les chiens allongent le cou et prennent des airs penchés. La méthode de Grétry a gagné en technicité et depuis, dans les années 1940, on a commencé à parler d'indissage auditif. On fait entendre à des sujets des stimuli rythmique, par exemple un son bref comme un clic répété ou de la musique rythmée pendant qu'il marche. Quand on choisit correctement la fréquence de ces sons ou le tempo de la musique, on se constate que le sujet synchronise son mouvement. On note des améliorations sur la vitesse de marche, la longueur de l'enjambé. La marche est plus naturelle, plus régulière, d'où l'idée de mobiliser cette technique d'indissage auditif pour ralentir les effets de la maladie de Parkinson. En 1997, à l'Université d'État du Colorado, aux États-Unis, le neuroscientifique Michael Toth a lancé une expérience avec une vingtaine de personnes atteintes de la maladie de Parkinson sous traitement médicamenteux, une dizaine sans traitement et une autre dizaine de personnes âgées non parkinsoniennes. Chaque participant devait marcher une trentaine de mètres à sa vitesse maximale, avec ou sans une stimulation sonore rythmée. L'expérience a montré que la stimulation rythmée améliore la marche pour tous les participants. Voilà qui s'est trouvé si probant que la méthode de l'indissage auditif a été aussi utilisée dans le cadre des accidents vasculaires cérébraux. Michael Toth et ses équipes ont appliqué la méthode à des personnes invalidées par une hémiplégie qui avaient du mal à attraper un objet. Il a comparé les capacités des personnes à atteindre un objet dans le silence et en présence d'un rythme régulier. Les sons réguliers permettent d'augmenter la capacité du cerveau à optimiser certains mouvements. À force d'accélération, on pourrait redouter qu'un tempo trop élevé finisse par être éprouvant pour le cœur, d'où la question, y a-t-il un tempo plus propice ? C'était Locomotive par les tambours du Bronx. Pour le neuropsychologue japonais Makoto Iwanaga de l'université d'Hiroshima, le rythme préféré des humains est autour du tempo de 70 battements par minute. Il l'a déterminé en réunissant des volontaires, en leur faisant écouter de la musique sur un ordinateur avec une commande qui leur permettait d'ajuster le tempo à volonté. Et c'est comme ça qu'il a pu constater que les candidats finissent généralement par ajuster le tempo à la fréquence de leur propre battement cardiaque, donc autour de 70 battements par minute, 70 étant à peu de choses près le tempo du début de la 7e symphonie de Beethoven. Colin Davis à la tête de l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde dans les premières mesures du Poco Sostenuto qui ouvre la 7e symphonie de Beethoven dans un tempo autour de 70 qui serait donc le tempo le plus propice à la détente du fait qu'il peut être synchrone avec les battements du cœur, ce qui peut justifier méfiance. Le professeur de marketing Ronald Miniman de l'université du Kentucky aux États-Unis a montré que dans un restaurant, une même musique instrumentale diffusée à un tempo de 70 battements à la noire par minute comparativement à un tempo de 92, conduisait les clients à rester plus longtemps à table et se traduisait par un surcroît d'un tiers de consommation de boissons. Sur les effets subliminaux de la musique sur le comportement des consommateurs, on est plus habitué aux considérations sur le volume. On connaît les marronniers qui nous rappellent que la musique dans les bars est mise à un niveau assez élevé pour justement mettre l'organisme dans une excitation qui lui donne envie de s'hydrater et qui pousse donc à la consommation. Mais on connaît moins les études quantitatives menées pour le prouver. Des observateurs installés dans un bar se sont donnés pour mission d'observer le comportement des clients et noter le nombre de verres qu'ils commandaient. Ils ont constaté que les clients attablés dans l'ambiance musicale à 88 décibels commandaient en moyenne 28% de verres en plus comparé à ceux qui étaient attablés dans une ambiance musicale à 72 décibels. On a popularisé cette corrélation entre volume sonore et consommation de boissons, l'effet Château-Lafitte. Cela dit, on connaît encore moins les études quantitatives menées pour prouver le contraire. Le psychologue Bruce Lamers de l'université de Northridge en Californie a réalisé en 2003 une expérience dans un restaurant plutôt calme en bord de mer qui montrait qu'un faible volume sonore s'accompagnait d'une consommation moyenne égale à 21,63$ contre 18,57$ pour un volume sonore élevé. Bref, une musique largot pourrait vous exposer à une consommation d'alcool immodérée. La violoniste Patricia Piekutowska et la pianiste Beata Bilinska dans le largo de la partita de Witold Lutosławski. Nous disions donc qu'une musique à un tempo largo pouvait nous exposer à une consommation de boissons potentiellement immodérée. Qu'à cela ne tienne, on dispose aussi de travaux qui suggèrent l'usage de la musique pour soigner l'alcoolisme. Une fois que l'alcoolique identifie l'alcool comme la seule source de satisfaction immédiate, sa seule source de bien-être, une anesthésie vis-à-vis des sensations désagréables, un relâchement du surmoi, alors la musique peut être utilisée comme médiateur thérapeutique. Médiateur agréable qui facilite la communication, rétablit un autre ordre de convivialité. Le sujet a été notamment abordé au congrès de musicothérapie et de psychiatrie sociale de Zagreb dès 1970 où Dargo Breitenfeld racontait comme il avait impliqué les fameuses chansons à boire dans les séances d'un club pour créer une sorte de sublimation dans la formation d'une nouvelle personnalité, à commencer par une parole collective retrouvée.
Est-ce que le bon vin nous manque? Et pourquoi voyons-nous pas? Le bon vin nous manque pas. Mangeons bien, nous mangeons guère. Mangeons bien, nous mangeons rien. Mangeons bien, nous mangeons guère. Mangeons bien, nous mangeons rien. Pourquoi mangerions-nous pas? Est-ce que le bon pain nous manque? Pourquoi mangerions-nous pas? Le bon pain nous manque pas.
Aimons bien, nous n'aimons guère. Aimons bien, nous n'aimons rien.
Aimons bien, nous n'aimons guère. Aimons bien, nous n'aimons rien.
Pourquoi n'aimerions-nous pas? Est-ce que les belles filles nous manquent? Pourquoi n'aimerions-nous pas? Les belles filles nous manquent pas.
Buvons bien, nous buvons guère. Buvons bien, nous buvons rien.
Buvons bien, nous buvons guère. Buvons bien, nous buvons rien.
Et pourquoi boirions-nous pas?
est-ce que le bon vin nous manque? Et pourquoi boirions-nous pas? Le bon vin nous manque pas.
Buvons bien, nous buvons guère, les quatre barbus sur France Culture. Pour revenir aux utilités psychomotrices de la musique, on sait que pratiquer régulièrement une activité, que ce soit jouer aux cartes ou aux échecs, limite le déclin des capacités cognitives liées au vieillissement. À partir de là, on se doute que la musique peut améliorer la qualité de vie des personnes âgées qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, mais on a toujours pour l'instant un peu plus de témoignages que d'études sur le sujet.
Vous écoutez Culture Musique avec David Christoffel.
La psychologue canadienne Lola Kedi relate le cas d'une patiente souffrant de la maladie d'Alzheimer qui présentait des troubles de la mémoire et du langage. On lui demandait par exemple de reconnaître des mélodies familières parmi d'autres ou de détecter des fausses notes insérées dans les mélodies connues. On a constaté qu'elle réagissait seulement aux mélodies qui contenaient des fausses notes, puisque c'est justement là qu'elle se mettait à rire, et quand l'expérimentateur prononçait les mots d'une chanson qu'elle connaissait, elle prenait le relais en chantant la suite. Les effets de la musique sont spectaculaires compte tenu des déficits cognitifs notables de la patiente dans la plupart des domaines. D'autres études ont permis de montrer que certaines aptitudes musicales sont préservées chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais un genre musical s'attire les faveurs des thérapeutes, le tango. Voici celui qu'Albéniz compose dans son opus 65, Espagna. Et Céline Romero dans le tango extrait de l'opus 165, Espagna, d'Albéniz. Quand on parle des maladies neurodégénératives, en général, c'est pour expliquer qu'il peut y avoir certains facteurs qui permettent d'en ralentir les effets quand on s'y prend suffisamment tôt. Des chercheurs de Pittsburgh avaient comme ça suivi un panel de volontaires pendant 4 ans et avaient montré que ceux qui faisaient plus de 10 km de marche par semaine étaient moins exposés à des problèmes de démence que les autres. Sauf qu'en se focalisant sur la réduction des risques, on n'en sait pas plus sur ce qu'on peut faire pour ceux qui sont atteints des dits troubles neurodégénératifs. On connaît les bénéfices pour les malades étudiés par le neurologue Jean-Denis Turc, qui lui parle de tangothérapie. Sur 30 seniors testés âgés de 68 à 91 ans, on a fait suivre des leçons de tango à la moitié pendant que les 15 autres pratiquaient la marche à pied. Résultat, les danseurs, hommes-femmes, ont gagné en assurance, ont fait preuve de plus de sophistication dans leurs efforts vestimentaires, ont été meilleurs aux tests de mémoire et voyaient leur risque de chute sensiblement diminué. C'est comme ça qu'on en est venu à utiliser le tango dans la prévention des chutes, la pratique du tango ayant prouvé ses effets sur les fonctions motrices mais aussi sur les capacités cognitives.
Ya van mis ojos negros, claridad dueño de la hienda. Tus labios me hicieron daño al besar mi boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo, canté sin poder cantar. Cerraste tus ojos negros, se volvió tu cara blanca. Llamamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho. Con cuerdas de 100 guitarras me trencé remordimientos. Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto. Recé sin poder rezar.
Milonga triste de Sébastien Piana et Homero Manzi. La neuroimagerie a permis de vérifier que la musique mobilise de plus larges parties du cerveau que le langage verbal. Spécialiste en neurosciences musicales, Hervé Platel explique qu'on a dépassé l'idée qu'à un certain stade de la pathologie, les patients ne peuvent plus rien apprendre de nouveau, ce qui est particulièrement encourageant pour les musiciens qui veulent faire de la musique pour les personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives. D'autant qu'on sait aussi que les patients qui mémorisent les mélodies des chansons sont capables d'en restituer les paroles même quand ils ont perdu la capacité de mémoriser un texte ou des phrases. Un extrait de l'étude aux casseroles de Pierre Schaeffer pour introduire un autre trouble de l'esprit qui donne de plus en plus l'occasion aux thérapeutes de s'adjoindre les services de musiciens. Il s'agit de l'autisme. Dès 1958, un musicien Nordhoff et un docteur Robbins ont mis en place une technique de musicothérapie active à base d'improvisation, partant du principe que la créativité est le meilleur vecteur pour surmonter des difficultés émotionnelles, cognitives ou même physiques. Ils ont pour ça créé les occasions les plus favorables pour que thérapeutes et patients se retrouvent à jouer ensemble, quitte à jouer avec tous les objets environnants, que ce soit le mobilier, les radiateurs, les ustensiles de cuisine, les casseroles. Donc au fond, il s'agit de reprendre la leçon du pédiatre Winnicott et d'investir le jeu comme une reconstruction d'un dialogue, d'un rapport aux autres. Maintenant, où en est-on en 2016 ? Yves Godin a soutenu une thèse au début de cette année à Nice qui reprend l'importance du jeu mais qui s'intéresse aussi à la théorie du chaos pour voir d'où émerge l'organisation des choses, comment un individu qui s'en trouve exclu s'insère dans l'ordre du langage. Pour Yves Godin, cela suppose un instant zéro. Pour lui-même, ça a coïncidé au moment où, pendant un concert avec l'orchestre de chambre de Genève où il occupait le pupitre de trompettiste, il lui a été donné d'entendre un chœur francophone chanter en tchèque, alors que pour la plupart, ces chanteurs n'en avaient aucune notion. C'est en effet peut-être cela encore, cet instant zéro, ce quelque chose qui n'a pas de sens tout en ayant un pourtant. Voici l'orchestre de chambre de Genève dans une version violon-orchestre d'un nocturne de Chopin. Nocturne en mi bémol majeur opus 9 numéro 2 de Chopin dans une version violon orchestre avec Christian Ferras au violon et l'orchestre de chambre de Genève. La musique qui accompagne le jeu, c'est une chose, mais qui ne fait pas tout. Quand il était stagiaire à la fondation Les Oliviers à Lausanne, Yves Godin a dû renoncer à suivre un patient qui justement présentait une addiction au jeu et qui s'est mis à consommer les séances de musicothérapie comme un défouloir, pour ne pas dire un jeu de plus, une nouvelle façon de succomber à la tentation. Et comme, même dans le jeu, la musique continue à faire des effets, une équipe de l'Université de Montréal a montré que la musique des jeux vidéo pour enfants fait augmenter la concentration sanguine en cortisol. Marc Benham avec Super Mario Land. Pour boucler la boucle de ce culture musique en matière de stimulants intellectuels, un chercheur anglais en psychologie, Leg Ribby, compte non pas sur l'effet Mozart, mais sur l'effet Vivaldi. Thank you. L'argot de l'hiver des quatre saisons de Vivaldi dans une version à la harpe par Xavier Demestre. C'était Culture Musique sur les pouvoirs moteurs, psychomoteurs et en fait totalement régénérateurs de certains tempi, de certaines danses. Demain, dans le dernier volet de la série La Musique qui Soigne, nous reviendrons sur un organe qui attire particulièrement l'attention quand on parle des bienfaits de la musique, le cerveau. Cette émission était réalisée par Hervé Marchand avec les bons soins de Jean-Frédéric. Il me reste donc à vous inviter à prendre soin de vous et de vos oreilles avec France Culture.